Donc l'enregistrement s'est coupé. Ce qui veut revenir à l'histoire de Atta, il revient au couteau. Nous, vous aurez vos notes. Vous aurez vos notes. Khair, inshallah. Naam, qu'est-ce qu'il rapporte à Atta? Il dit Ra'aytu rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yajlis. Ra'aytu rijalan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibuna idha tawadda'u wudu'a salah. Il dit j'ai vu des hommes parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir dans la mosquée alors qu'ils étaient en état de grande impureté. Idha tawadda'u wudu'a salah, au moment qu'ils faisaient les ablutions comme pour la prière. C'est pas dire qu'ils vont prier avec ces ablutions, mais pour pouvoir rester dans la mosquée, ils font ces ablutions. Et ici, parmi la sagesse, parce que quelqu'un va dire, mais ça sert à quoi ici de faire tes petites ablutions alors que tu es en état d'impureté majeure? Ici, c'est pour descendre d'état d'impureté. C'est-à-dire que tu es en état d'impureté majeure, en faisant tes ablutions, tu l'allèges. Tu as allégé cet état d'impureté et tu peux ici rester dans la mosquée pour que si quelqu'un, un exemple, un enseignant, ça peut arriver. Un enseignant ou un exemple, ici, la femme qui a ses menstrues, qui reste à la mosquée pour des cours, qui donne des cours, etc. Dans ce cas-là, elle fait cela. Également, donc, comme on a vu, il est autorisé pour celui qui est en état d'impureté majeure de passer dans la mosquée, d'accord, sans s'asseoir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Illa abiri sabil ». D'accord, yani pour celui qui, simplement, il est là de passage. Non. Également, par rapport à Moussalla al-Eid, le lieu de prière du jour du Eid, d'accord? Celui qui est en état d'impureté majeure, ici, ne reste pas à cet endroit pour le Moussalla al-Eid s'il n'est pas en état d'ablution. S'il n'est pas en état d'ablution, mais il a le droit de passer. Il a le droit de passer. Il n'y a pas de mal à cela. Naam. Donc on passe à un chapitre. Au chapitre suivant. Bab fi adabi qada il haja. Donc le chapitre des comportements à avoir lorsque la personne fait ses besoins. Donc ici, il est important de savoir et que l'ensemble des musulmans sachent que notre religion est parfaite. Notre religion est complète. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a rien laissé. Que ce soit dans notre dîn ou que ce soit dans notre dunya. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a rien laissé comme cela. Rien n'a été laissé. Tout nous a été enseigné. Tout nous a été expliqué. Et notamment, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimallah, il raconte une histoire comme ça, où la personne, elle vient, elle dit, comment vous les musulmans, vous dites, elle dit, il y a un dialogue entre deux personnes, et dit, comment vous les musulmans, vous dites que la religion, elle est parfaite, elle est complète, et que vous, tout il vous a été expliqué. L'imam, il dit non. Il dit oui. Tout, il nous a été expliqué. Il lui dit, ben là, le plat que j'ai, la salade, etc., que j'ai, elle a été... Comment, dans la religion, Yannis, ça m'explique comment elle a été faite. Il lui dit non. Même ça nous expliquait. Il a dit bloc. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Fas'alou ahla dhikr in kumtum la ta'lamoun. Et demandez aux gens du rappel lorsque vous ne savez pas. Subhanallah al-Azim. Tout nous a été expliqué. Et notamment parmi les grands chapitres de notre religion, il y a le comportement à avoir lorsque la personne fait ses besoins. Pourquoi? Et nous sommes fiers de cela. Et nous sommes fiers de ces choses-là. Notamment comme les juifs sont venus en se moquant à Salman al-Farisi, en leur disant, votre prophète vous a tout appris, même la manière d'aller aux toilettes. Et qu'est-ce qu'il a répondu avec toute fierté, avec tout honneur? Il a dit, bah, bien sûr, il nous a appris. Et il leur a même cité, il nous a interdit de se mettre en direction de la Qibla, de tourner le dos. Chose, comment le musulman, il doit être fier? Il doit être fier de sa religion et on doit être fier qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a tout enseigné. Et le fait qu'Allah azza wa jal et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné cela, le comportement à avoir lorsque l'on va aux toilettes, c'est parce qu'Allah azza wa jal nous a honorés et parce qu'il nous a différenciés des animaux. Chose Allah azza wa jal nous a différenciés des animaux. On n'est pas des bêtes, yarhamkallah. On n'est pas des bêtes. Allah tabaraka wa ta'ala nous a différenciés, nous a honorés. Car notre religion, c'est la religion de la propreté. Notre religion, c'est la religion de la pureté. Et il y a des comportements à avoir lorsque la personne fait ses besoins ou qu'elle entre dans l'endroit où on fait ses besoins ou qu'elle en sort. Donc parmi les choses importantes, lorsque le musulman souhaite yani, rentrer yani, dans l'endroit, et ici, certains, ils vont traduire par les toilettes. Quand on rentre, la dua, quand on rentre aux toilettes. Mais ici, ce n'est pas que aux toilettes. C'est dans tous les endroits où on fait ses besoins. Si la personne, un exemple, il est dans la forêt, etc., il y a un endroit où les gens font leurs besoins, ça prend le même statut. Faut pas penser que c'est que quand c'est à toilette fermée, etc. Et le contraire aussi. Quand à toilette tout y est propre, la chasse doit aller tirer, il n'y a pas d'impureté dedans. Ça pue le. Ça a pas le. Yanni, c'est une pièce. C'est un endroit. Une salle d'eau. Des fois, les toilettes sont plus propres que. Yanni, certaines demeures. Donc ici, il ne faut pas spécifier que c'est que aux toilettes. Et lorsque la personne, un exemple, elle doit faire ses besoins dehors, elle va. Yanni, elle n'a pas. Ses comportements à appliquer, non. D'accord ? Tout endroit qui est yani spécifié pour l'accomplissement des besoins, ici, cela rentre dedans. Donc, lorsque la personne, elle, entre dans ces endroits-là, il lui est recommandé de dire Bismillah. De dire Bismillah. Car d'autres hadiths nous prouvent que le fait de dire Bismillah, c'est un voile entre toi et Shaitan. Entre ta nudité et shaitan. Bismillah, a'ouzou billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. D'accord ? A'ouzou billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. Donc ici, la même chose, que chacun m'envoie son invocation par WhatsApp pour que je puisse corriger. Pour que je puisse, bi'idhnillah, corriger la manière dont tu dis cette invocation. D'accord ? Donc une fois que tu as dit cette invocation, et nous, Inch'Allah, dans la dernière période, on a dit on étudiera toutes les invocations au niveau de la purification. Et là, on pourra expliquer cette invocation qui est très, très importante. Ensuite, lorsque tu rentres avec le pied gauche. Tu rentres avec le pied gauche et quand tu sors avec le pied droit. En sortant, tu dis « Rofranek ». D'accord ? « Rofranek ». Et également, il est rapporté aussi dans un hadith où certains savants yani, l'ont authentifié, d'autres l'ont affaibli, mais beaucoup de savants disent que c'est une chose par laquelle on peut appliquer, de dire « Alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani ». D'accord ? Donc dire cette invocation « Alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani ». D'accord ? Donc cette invocation également à dire lorsque tu sors du toilette. Ensuite, pourquoi tu rentres avec le pied gauche et tu sors avec le pied droit, qui est le contraire de la mosquée? Parce que la droite, elle est utilisée pour toute belle chose, pour toute chose importante. Là, dans ce cas-là, tu vas utiliser. Et la gauche, elle est utilisée pour tout ce qui va enlever ou effacer quelque chose de sale ou un mal, etc. D'accord? Donc ça, c'est une différenciation qui est importante. Lorsque tu rentres dans cet endroit, rentre avec le pied gauche et tu seras récompensé. Subhanallah. Là, tu rentres avec le pied droit, tu n'es pas récompensé. Tu rentres avec le pied gauche, tu es récompensé. C'est, donc ça, c'est des choses à s'habituer. C'est vraiment des choses à s'habituer, à éduquer nos enfants sur ces sunnans, parce que dans cela, il y a le fait de s'accrocher à la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, et comme le prophète, sallallahu alayhi wasalam, dit, tamassaku biha, accrochez-vous. Addu alayha bin nawajiz, mordez-la plein de dents. Et on se doit de s'accrocher à la sunna de notre noble prophète, alayhi salatu wasalam. Donc lorsque tu rentres dans l'endroit pour accomplir tes besoins, d'accord, ici également, il est important, bien sûr, de s'écarter, d'accord, de s'éloigner des gens. Donc la même chose à la maison, on éduque les enfants sur le fait de fermer la porte. De fermer la porte. On n'est pas aux toilettes et la porte elle est ouverte ou entrouverte, etc. On éduque directement les enfants sur le fait de fermer, de se cacher. Et également, nous appliquons cela. Également, yani, ça doit être dans un endroit caché des gens, d'accord, qui doit être caché par un mur, etc., bien sûr. Donc la même chose quand on est dehors. Dans un endroit où les gens ne nous voient pas. Également, il est interdit. Donc ici, il yuhram. Il est haram. Il est interdit de faire ses besoins en direction de la Qibla. Ou de tourner le dos à la Qibla. Ça, subhanallah. Ça, c'était important. Ça, c'est très, très important. Mais la personne doit dévier. D'accord ? Tu dois dévier. Si la Qibla, elle est tout droit, tu te mets soit à gauche ou soit à droite. Également, il est très, très important. Il est très, très important pour la personne de se préserver contre les éclaboussures des urines, que ce soit sur son corps ou que ce soit sur par terre. C'est pour cela que certains savants ont mis comme condition pour l'homme qui urine debout, donc la sunna c'est d'uriner assis. Il est détestable d'uriner debout et il est interdit d'uriner debout lorsque tu sais que tu risques d'avoir des éclaboussures. Donc, tu peux uriner debout lorsque tu sais que tu vas pouvoir te préserver des éclaboussures. Parce que le fait d'être négligent dans les éclaboussures de l'urine, ça fait partie des causes du châtiment de la tombe. Ça fait partie des causes du châtiment de la tombe. Également, il est interdit de toucher donc son sexe avec la main droite. Avec la main droite. D'accord ? C'est la yajouz. D'accord ? Comme il est interdit d'uriner ou de faire ses besoins dans le chemin des gens. Ou dans l'endroit où les gens cherchent, retrouvent sombrage. Dans l'endroit où les gens ils vont prendre l'ombre. D'accord ? Ça, c'est des endroits. Voilà, en dessous d'un arbre, etc. C'est que les gens ils vont rechercher l'ombre à cet endroit-là. Également dans les endroits où l'eau coule. Toutes ces choses-là, la personne ne fait pas ses besoins. Ah, alhamdoulilah, notre religion, elle est parfaite.
Est-ce que ça les éclaboussures sur les habits?
Non.
En fait, à partir du moment où ça touche, même un petit peu, on doit laver l'habit.
En fait, tu te nettoies. Si tu as des éclaboussures sur ton habit et que toi, tu as pu les identifier, comme ça, on verra un chapitre, comment nettoyer les impuretés. C'est un chapitre à part entière. Donc là, tu vas voir, tu nettoies. Si tu vas détecter la zone, tu vas nettoyer toute la zone. Si tu ne sais pas du tout, là, dans ce cas-là, tu changes l'habit. D'accord ? Sabine, on le verra en détail, ce sujet. Donc tout cela, c'est interdit parce qu'il y a cela cause du tort. Cause du tort aux gens. D'accord ? Le fait d'uriner dans ces endroits-là, etc. Ça cause du tort aux gens et l'islam est une religion et un est de droit et d'islah entre les gens.
Interdiction d'uriner dans l'eau coulante ou pas coulante.
Voilà, tu sais que les gens, un exemple, ils vont aller au puits, tu vois, où ils vont. Voilà, les gens, des endroits où les gens, ils vont se servir de l'eau, ils vont. D'accord ? Également, on ne rentre pas dans l'endroit où on fait ses besoins avec des choses qui contiennent le nom d'Allah Azza wa Jal. Avec des choses qui contiennent le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme le Coran ou le rappel d'Allah Azza wa Jal. Par contre, si tu as peur pour cette chose, que si tu la laisses tout seul dehors, etc., contre la vol ou contre l'endommage, etc., dans ce cas-là, tu as le droit de la rentrer, mais tu la couvres. Chose, subhanallah. Ouais. Tu as le droit de la rentrer, mais tu la couvres. D'accord ? Et ça, subhanallah, c'est des choses qui servent, parce qu'à certains moments, un exemple, tu vas être bloqué. T'as vu, il y a des moments où t'es pressé, tu sais pas, t'es là, t'es pas chez toi, il y a des situations. Et le fait de savoir ces choses-là, subhanallah, ça te... Voilà. Voilà, il y a un exemple au Hajj, à Médine, etc. Tu vois, c'est des choses que ça te... Ou au Hajj, t'as attendu trois quarts d'heure pour aller aux toilettes et t'arrives là, t'es bloqué, tu te dis, je vais pas retourner dans la tente. Pour ceux qui ont fait le Hajj, ils savent de quoi on parle, tu vois. Tu vois, hein? Ou à Muzdalifa, là. T'attends deux heures pour... Donc, subhanallah al-azim, c'est... Yani, c'est des choses, jamais rien négliger, parce que chaque chose, quand tu sais, elle peut te faciliter grandement.
C'est là où l'ilm
est vraiment... Ah, non, moi, ça. Non. Également, parmi les graves erreurs que les gens font, c'est de parler pendant... qu'ils... Yani, qu'ils font leurs besoins. D'accord ? La personne ne parle pas. Lorsqu'elle fait ses besoins. Et les savants ont détaillé ce point-là. C'est le savant ont détaillé ce point-là. Parce que certains frères, j'ai déjà eu l'occasion qu'un frère il s'est même énervé quand on disait ça, ils pensent que ça fait partie des... Ah, c'est les anciens qui disent ça. Subhanallah, t'as un hadith qui prouve qu'Allah Azza wa Jal se met en colère contre celui qui parle pendant qu'il fait ses besoins. ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك. Pardon, يمقت ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il déteste cela. Allah Azza wa Jal, il déteste cela. On ne va pas utiliser le terme qu'il se met en colère, on va dire qu'il déteste cela. D'accord ? ويحرم عليه قراءة القرآن. Et il est interdit de réciter le Coran. Également, lorsque la personne donc a terminé ses besoins. Ici, il nettoie, yani, l'endroit où c'est sorti avec de l'eau. Ou, donc, soit il fait l'istinja, soit il fait l'istijmar. Ça, c'est deux points, deux mots importants à connaître. L'istinja ou l'istijmar. Donc, l'istinja, c'est le fait de se nettoyer avec de l'eau. L'istijmar, c'est le fait de se nettoyer, donc à la base avec des pierres, ou tout ce qui va venir remplacer les pierres. Donc ici, il n'y a pas de mal à utiliser les deux. Donc ici, l'istijmar, tu vas utiliser du papier, et ensuite tu vas utiliser de l'eau. Ou tu vas utiliser de l'eau, et ensuite tu vas utiliser du papier. Il n'y a pas de mal à utiliser les deux, et cela est meilleur. D'accord ? Utiliser un exemple le papier pour éviter que tes mains soient en contact direct avec l'impureté. Et ensuite, utiliser de l'eau. Cela est meilleur. Par contre, si la personne n'utilise que de l'eau, il n'y a pas de mal. Et si la personne n'utilise que le papier, il n'y a pas de mal. Par contre, la condition lorsque tu utilises l'istijmar, donc ici nous on traduit par le papier, mais bien sûr l'istijmar, ça peut être les pierres, ça peut être... ça peut être du tissu, ça peut être... peu importe, l'istijmar...
Le principal c'est d'enlever,
et le principal c'est de ne pas le faire avec les excréments et les os. Et les excréments d'animaux et les os, ça c'est interdit dans l'istijmar. Yani le reste, peu importe, un tissu, du papier, des pierres, du bois, peu importe, yani ce que la personne a sous la main, ça s'appelle l'istijmar. D'accord, ça s'appelle l'istijmar.
Yani, laïsa bichart, bi'adam moujoud al-ma.
نعم هذا هو ليس بشر يعني
voilà
هذا هو ce qui dit le frère حفظ الله c'est que c'est pas tu n'utilises pas le papier que quand il n'y a pas d'eau non même s'il y a de l'eau tu peux faire l'istijmar par contre donc comme on verra d'accord comme on verra ويشترط ثلاث مساحات quand tu fais l'istijmar la condition c'est qu'au minimum, tu as utilisé, yani, tu t'es essuyé trois fois. Donc si tu utilises le papier, là c'est obligé de faire au minimum trois fois. Et ça c'est important d'éduquer les enfants sur ça. Trois papiers, trois fois, trois masahat. En fait c'est pas trois papiers.
Ouais c'est trois fois.
Trois fois. Voilà. Trois fois. Ça c'est la condition si tu utilises l'istijmar. Yani, si tu fais l'istijmar. Trois fois minimum. Parce qu'il a besoin de plus, il fait plus, d'accord. Et il est interdit de faire l'istijmar avec... Et également, un point important, les trois masahat, le cheikh ici dit, munqiya, thalatha masahat munqiya, trois essuyages purificatrices. Ça c'est important, c'est-à-dire vraiment trois choses qui vont purifier, tu vois, au minimum. Parce que 3, 1, 2, 3, sans faïda, j'ai fait 3, non. Vraiment que ce soit 3, munqiya, yani, purificatrice ici. D'accord ?
Si ce n'est pas le cas, tu fais le sinja pour être tranquille.
Ouais, encore mieux.
Si après, au bout de 3, ça sort, ben, tu peux faire 4, 5, 6, 7, 8, il n'y a pas de problème. Lui, il peut...
Minimum
3. Mais, en fait, c'est le minimum et c'est la condition. La condition que ce soit le minimum 3. D'accord ? Et la personne doit absolument effacer également les traces de ce qui est sorti. D'accord ? Il doit effacer les traces de ce qui est sorti. Yani, il essuie tout. La personne craint Allah Azza wa Jal dans le fait de cette purification. Il peut également s'essuyer, il n'y a pas de mal. D'accord ? Afin que, yani, le but, c'est qu'il n'y a plus de... Yani de... Et ici, également important, lorsque tu t'essuies, un exemple pour la personne, alhamdoulilah, maintenant, on a du papier, etc., tu le jettes. Mais si la personne, elle va... Un exemple, ça va servir pour le lavage du mort. Quand là, la personne va laver le mort, si elle essuie avec, un exemple, un tissu, ben, avant de faire le deuxième essuyage, tu dois nettoyer le tissu pour pas qu'il reste encore... De l'excrément ou de l'impureté dessus et que tu risques d'en remettre sur... D'accord ? Donc ici, pour nous, mais si même si toi, un exemple, tu dois t'essuyer avec un tissu ou peu importe dans une situation, dans ce cas-là, tu te dois d'enlever avant de... Sinon, alhamdoulilah, comme on a dit, on a du papier, mais pour le lavage du mort, des fois, ça peut arriver. Si la personne n'a pas d'eau ou elle n'a pas assez d'eau, parce que généralement, on utilise de l'eau, mais si tu n'as pas assez d'eau, dans ce cas-là, tu vas faire l'istijmar, tu vas utiliser un tissu ou du papier, mais ici, c'est important. Donc ici, c'est toutes des choses qui vont te servir, d'accord ? Voilà, afin que, yani, tu ne vas pas déplacer l'impureté d'un endroit à un autre, d'accord ? Certains savants, certains jurisconsultes ont dit que l'istinja, donc le fait de se nettoyer avec de l'eau. Et ici, important, avant de passer à un point, une erreur que beaucoup font. La condition des trois essuies, c'est pourquoi ? Pour l'istijmar, si tu t'essuies avec du papier ou autre. Mais pour l'istinja, est-ce que la condition c'est minimum trois essuies ? Non. Ici, avec l'istinja, tu fais un essuie, c'est suffisant. Ça, avec l'eau.
Voilà. C'est une idée que...
Et ça, t'as vu, c'est des idées que, un exemple, nous on a vu, moi j'ai pu découvrir cette erreur quand j'ai vu comment certaines personnes lavaient les morts. Et je vois qu'en fait, ils pensent que l'istinja, c'est minimum trois fois. Mais trois fois, non, c'est l'istijmar. Donc ici, la condition, elle a été faite pour l'istijmar et pas pour l'istinja. Donc ici, c'est pour ça que c'est important de bien faire la différence entre les deux. Certains savants ont dit que l'istinja ou l'istijmar était une condition parmi les conditions de la validité des ablutions. D'accord ? Était une condition parmi les conditions de la validité des ablutions. Donc, il était obligatoire que l'istinja ou l'istijmar venait précéder les ablutions. Falaw tawadda'a qabla, même si la personne, même si un exemple la personne, donc si la personne elle fait ses ablutions avant l'istinja ou l'istijmar, ses ablutions ne sont pas comptées. Ses ablutions ne sont pas comptées. Et il ramène yani, la preuve de cela, même lui-même, c'est la vie de l'imam Nawawi. D'accord ? Ou est-ce qu'il dit, il dit la sunna, c'est de faire l'istinja avant le wudu, afin de sortir du khilaf. Mais sur ce point ici, il ne faut pas mal comprendre. Ici, il ne faut pas mal comprendre. Ça, je vais directement à la fin, parce qu'il parle de cela. Il dit, wahuna amrun yajibu tanbihu alayhi. Ici, on va parler d'un sujet important. Certains parmi les awam, parmi les gens du commun, pensent que l'istinja fait partie des ablutions. Non. On a dit que certains savants l'ont considéré comme une condition. Une condition, c'est quoi ? Une condition, c'est ce qui vient avant l'acte, qui est en dehors de l'acte. C'est une condition. Les conditions du hajj, les conditions de la prière, les conditions du mariage, c'est tout ce qui est en dehors de l'acte. Vous suivez ? Conditions de la prière, les ablutions, c'est en dehors, c'est séparé. C'est-à-dire que si la personne, automatiquement, elle a été aux toilettes, elle a fait ses besoins, etc. Et elle va faire ses ablutions. Dans ce cas-là, automatiquement, elle va faire l'istinja et ensuite elle fera ses ablutions. Mais certaines personnes pensent que ça fait partie des ablutions. Ça fait partie des ablutions. Ça veut dire qu'est-ce qu'elles vont faire ? Dès qu'il veut commencer les ablutions, il va aller faire l'istinja, même qu'il n'a pas été aux toilettes.
Ouais,
c'est ça, ouais.
C'est une condition. Dans le cas où tu vas aux toilettes,
voilà. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que même la personne, elle n'a pas été aux toilettes, il va même pas aux toilettes. Il va juste faire l'istinja et ensuite. Il commence ses ablutions. Ou des fois, même qu'il a été aux toilettes, mais il a fait l'istinja. Et dans ce cas-là, il va recommencer l'istinja. Toutes ces choses-là, ça fait partie des graves erreurs. Partie des grandes erreurs. L'istinja, laïsa min al wudu. Car l'istinja ne fait pas partie de l'wudu. Mais cela fait partie de ses conditions. D'accord ? Et wa mahalluhu ba'd al farar. Et à quel moment tu vas faire l'istinja ? Au moment où tu as terminé tes besoins. Au moment où tu as terminé d'accomplir tes besoins. Et il n'y a pas besoin de répéter l'istinja. D'accord ? De répéter l'istinja. Comme certaines personnes vont faire l'istinja quand elles ont des gaz. Quand elles ont des gaz, certaines personnes vont penser qu'il va falloir faire l'istinja. Quand tu as un gaz, il n'y a pas d'istinja à faire. D'accord, les frères ? Naam. Donc ensuite, il dit, « Ayyuhal muslim, ô cher musulman, prends garde, préserve-toi quant au fait de purifier ton urine. Quant au fait de purifier ton urine, car le fait de ne pas se purifier, d'être laxiste dans cela, fait partie des choses qui causent le châtiment de la tombe, a'adhanallahu wa iyyakum. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, préservez-vous de l'urine, fa inna 'amata 'adhabil qabr min. Car la plupart, écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la plupart, la grande majorité du châtiment de la tombe, c'est à cause de cela. Chose, subhanallah. Chose. Donc c'est pour ça le musulman doit prendre garde à cela. Mais à côté de ça, le musulman, il doit craindre Allah Azza wa Jalla, il ne doit pas tomber dans le waswas. Il ne doit pas tomber dans le waswas. Il commence à sentir de l'urine partout, à penser, khlas, il va faire limite le rousse avant de quand il a terminé. Non.
C'est vrai.
Le musulman, il doit craindre Allah Azza wa Jalla. On a une religion de juste milieu. Premièrement, si tu adaptes la bonne position quand tu accomplis tes besoins, déjà tu vas te préserver. Ensuite, tu fais l'istinja, l'istijmar, comme le prophète Samit l'a demandé. Tu vas te préserver. Et même pour celui qui est atteint par cela, à la fin, il prend de l'eau dans sa main et il en jette dans ses sous-vêtements. Et comme ça, si tu sens que c'est des trucs, tu coupes. Et celui qui se laisse tomber et aller dans l'ouest-ouest, et tu as des frères, tu as des sœurs qui sont touchés par l'ouest-ouest, qui restent des demi-heures Des trois quarts d'heure, des heures dans le toilette, dans la salle de mission, passe pour. Et ça, ça fait partie des choses. Tu désobéis au prophète Sassem en faisant ça. Hein.
Ça veut dire qu'une personne qui va aux toilettes et que par accident, imagine qu'il y a des gouttes d'urine qui sont tombées sur son caleçon ou autre, il y a juste à nettoyer. Il n'y a même pas à changer alors.
Non. Ah, si, ça peut arriver. La personne, l'urine, peu importe, l'impureté, elle est tombée sur son sous-vêtement. Dans ce cas-là, il prend l'eau, il nettoie. D'accord ? Donc ici, tu nettoies, tu t'imbibes d'eau, tu nettoies, donc tu comment on appelle ça là,
Tu frottes,
tu frottes, classe.
Ah, c'est-à-dire
ici, il n'y a pas de...
C'est pas un annulatif de l'ablution ou quoi, qu'est-ce alors ? C'est pas une impureté qui fait que ça annule...
Bah, une fois que tu l'as nettoyé, ton impureté n'est plus là. Regarde le bédouin qui a uriné dans la mosquée.
Ouais.
Le professeur m'a pas dit de changer le sol. Verser de l'eau. Une fois que tu verses de l'eau, classe. C'est... Donc là, la même chose. Et en plus, et subhanallah, quand tu réfléchis, tu dis, mais si tu enlèves ton sous-vêtement et tu le mets à la machine, ben tu fais la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait la machine ? Elle mouille ton vêtement, elle le lave, elle le frotte, elle le... ben fais-le, que tu le fasses. Donc c'est la même chose. Donc c'est pour ça, vraiment, c'est des points très importants. Parce que vraiment, chaque personne, elle va se retrouver dans certaines parties. Et ça, c'est des choses que quand t'en parles pas, t'es capable de jamais en parler dans toute ta vie de ces choses-là. Et tu peux rester 50 ans, 60 ans, une vie entière à faire les mêmes choses. Alors que non. Notre religion, elle est simple, alhamdoulilah. Notre religion, elle est simple. Et c'est pour ça que le chapitre sur le fait d'enlever les impuretés, ça va être un chapitre important. D'accord ? Comment les enlever ? Parce que t'as différents types d'impuretés. D'accord, tu as différents types d'impuretés. D'accord, donc tout ça, bi'idhnillah, on l'étudiera en détail. D'accord, les frères ? Également, et on termine ce chapitre par un point, moi qui m'a... Wallah que ce point, il m'a... En préparant le cours, j'étais perturbé, tellement c'est quelque chose, subhanallah, il dit, « Ayyuha al-muslim, inna kamal al-tahara » يسهل القيام بالعبادة. Écoutez cette règle exceptionnelle. Le fait de te purifier convenablement va te faciliter ton adoration. Le fait que tu es dans une purification totale et complète et parfaite, ton adoration sera facile. Et ça va t'aider à accomplir ton adoration de la meilleure manière. Et ça va t'aider à accomplir ton adoration de la manière légiférée. Écoutez ce que rapporte l'imam Ahmad. Rahimahullah ta'ala. D'après un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a prié la prière du subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié la prière du subh. Et il a récité surat ar-Rum. Et il s'est trompé. Dans la sourate, il y a eu un blanc et il s'est trompé. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit ? Quand il a terminé la prière, écoutez ce que le prophète Sassami dit. Innahu yulabbisu alayna al-Qur'an. Anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu. Faman shahida salata ma'ana fal yuhsin al-wudu. Le prophète Sassami, il a réprimandé les prieurs qui étaient derrière en disant que certains prient avec nous et ils n'ont pas fait leurs ablutions convenablement. Celui qui prie avec nous, qu'il fasse ses ablutions convenablement. Donc regardez, subhanallah al-azim. Et des fois, c'est l'heure de la prière, on veut tellement, on pense donner de l'importance à la prière que nos ablutions, on les fait rapidement pour ne pas rater la prière. Subhanallah al-azim. Tes ablutions, c'est une adoration. Tes ablutions, bi'idhnillah, on aura l'occasion de voir les mérites des ablutions. Tes ablutions, ça fait partie des plus grandes adorations. Plus grandes adorations que tu fais dans ta vie, c'est le wudu. Prends conscience que tu... subhanallah, que tes ablutions font partie des très très grandes adorations. Et crains Allah Azza wa Jalla dans cela. Également, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a loué les gens de Mesdit Quba. Mesdit Quba, La première mosquée édifiée en islam. Première mosquée édifiée en islam. Cette mosquée, elle a été citée dans le Coran. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit ? Fihi, dans cette mosquée. Et Rijal, il y a des hommes. Donc déjà, on peut voir que les vrais hommes, c'est ceux qui fréquentent les mosquées. Et ceux qui fréquentent le café, ce ne sont pas les hommes. Ce ne pas des hommes. Fihi Rijal, yuhibbuna ayyatataharu. Il y a des hommes qui aiment se purifier. Qui aiment se purifier. Wallahu yuhibbul muttahirin. Et Allah Azza wa Jalla aime ceux qui se purifient. Aime ceux qui se purifient. Subhanallah al-Azim. Donc, pour cela, on peut bien voir que notre religion est une religion de pureté, est une religion de propreté, d'accord ? Et que la personne doit, doit craindre Allah Azza wa Jal et doit connaître les comportements, les bons comportements à avoir lorsque il se purifie, d'accord ? Donc la personne doit étudier ces sujets, doit se renseigner. Et comme on a dit, les cours, ce sont simplement un rappel, on donne des informations, mais à celui qui écoute le cours, de s'intéresser au sujet, de lire sur le sujet, de regarder les preuves sur le sujet, de regarder le détail sur le sujet, parce que ce sont des choses qui se passent tous les jours de notre vie. Et c'est dans ça qu'on éduque nos familles, et c'est dans ça qu'on éduque nos enfants. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc on reprend donc la lecture du livre الملخص الفقهي de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc on rappelle que le Alhamdoulilah, c'est une étude rapide, d'accord, on rentre pas dans le détail et on ne, même par rapport au livre, on ne va pas traduire ou étudier mot par mot, sinon ça c'est important, mais c'est des choses qui prennent du temps. Donc on prend vraiment les choses importantes, c'est comme le titre le dit, el mulakhas en arabe, el mulakhas, c'est un résumé, un concis. D'accord ? Donc on prend les informations importantes et on avance car le but c'est de spécifier cette année de cours sur la prière. Donc on s'était arrêté au cours par rapport aux choses qui étaient interdites pour celui qui est en état d'impureté. Donc là on est toujours dans celui qui est en d'impureté majeure ou mineure. Donc on avait cité qu'il lui était interdit de toucher le Coran. Et on avait détaillé ce point. La deuxième chose qu'il est interdit pour celui qui est en état d'impureté, que cette impureté soit une impureté majeure ou une impureté mineure, c'est la prière. Et que cette prière soit obligatoire ou surérogatoire. Et cela à l'unanimité des gens de science. Mais la condition, c'est quoi ? La condition, c'est quoi ? Ça, c'est dans le cas où il peut se purifier. Ça, c'est un point important. Dans le cas où la personne se purifie, il lui est strictement interdit de prier sans les ablutions, ce qui est connu. D'accord ? Car Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu, idha qumtum ila salah, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, wa in kuntum junuban fattaharu al-aya. » Donc ça, retenez les frères, barakallahu fikum, ce verset. Le verset 6 de Sourate Al-Ma'ida. Le verset 6 de Sourate Al-Ma'ida, notamment les 2-3 premières lignes, c'est un verset qui est la base dans Kitab al-Tahara. Dans le livre de la purification, c'est la base. Donc ce verset doit être appris. Apprenez ce verset. Parce qu'il va revenir Souvent, tout le temps. C'est la base, notamment dans ce verset, comme on le verra, Inch'Allah, on a les piliers des ablutions. On a les piliers des ablutions. On a les membres obligatoires, etc. Ce verset parle du tayammum, mais parle de... Ce verset, vraiment, il est la base. Donc, retenez le verset 6 de Sourate 5, Sourate Al-Ma'ida. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire « La yaqbalullahu salah bi ghayri tahur » Et Allah, azza wa jalla, n'accepte pas une prière sans purification. Dans un autre hadith, et Allah, tabaraka wa ta'ala, n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. « Hatta yatawadda » Jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc lorsque la personne a la capacité de faire ses ablutions, il lui est interdit de prier sans purification, sans ablution, et la prière, même s'il prie comme cela, sa prière ne sera pas valide. Qu'il soit ignorant. Parce que la personne, elle dit, ouais, mais moi, je ne le savais pas, etc. Qu'il soit ignorant ou savant, la prière ne sera pas valide. Qu'il soit, qu'il oublie ou qu'il le fait exprès, la prière ne sera pas valide. Donc si tu as oublié, ce qui peut arriver, au moment où tu t'en souviens, tu pries, tu la rattrapes. Il ne faut pas dire, ah ben j'ai oublié, je passe. Non, la prière n'est pas valide. La prière n'est pas valide. وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ La prière n'est pas valide. N'est pas valide. لكن العالم العامد. Mais l'exception faite, enfin l'exception, non. Mais ici, un point par rapport à celui qui sait et qui le fait exprès. فإنه هو يؤثم. Ici, lui, celui qui le sait et qui fait exprès et qui prie sans purification, yani, ici, il prend le péché et il mérite la punition d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, si la personne a prié sans ablution ou sans purification parce qu'elle était ignorante ou parce qu'elle a oublié, dans ce cas-là, elle ne prend pas le péché, mais la prière n'est pas valable. Donc ça, c'est important. Elle ne prend pas le péché, mais la prière n'est pas valable. D'accord les frères ? Troisième chose qu'il est interdit pour la personne qui est en état d'impureté majeure ou mineure, c'est at-tawaf. C'est at-tawaf. Et le tawaf doit être fait en état d'ablution. Le tawaf doit être fait en état d'ablution. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit at-tawaf bil bayti salatun. Le tawaf autour de la maison est une prière. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla y a autorisé, yani dedans, de parler. Et il est rapporté d'une manière authentique dans le Bukhari Muslim, d'après le hadith de Aisha, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions pour effectuer le tawaf. Et également, dans un autre hadith, toujours dans l'histoire de Aïcha, Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la femme qui a ses menstrues de tourner autour de la Kaaba et de faire le tawaf jusqu'à ce qu'elle se purifie. Donc tous ces textes nous prouvent que le tawaf est interdit pour celui qui n'est pas purifié. D'accord ? Donc ensuite, le cheikh, hafidhahullah, donc il revient donc à la prière et au tawaf, etc. Et il cite les preuves de ce qui est interdit que lorsque tu en es en état d'impureté majeure. Donc ici, il cite le verset 43 de surat An-Nisa, de la surat 4. « Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salah » Dans le sens du verset, « Ô vous qui avez cru, n'approchez pas de la prière » alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, et ni quand vous êtes en état d'impureté majeure, Sauf celui qui, et Annie qui, comme on le verra, Annie, celui qui traverse. Tu vois, celui qui va traverser. Donc, pour revenir à la traduction, Annie, hatta tartasilu. Jusqu'à ce qu'il fasse ses grandes ablutions. La traduction est très, très approximative. À vous de rechercher la bonne traduction. C'est le verset 43, surat 4. Ici, la tadkhulu al-masjid wa antum junub, illa mari tariq. Ici, le verset, ce qu'il prouve, c'est ne rentrez pas dans la mosquée. Alors que vous êtes en état de grande impureté, sauf si c'est pour passer. D'accord ? Si tu dois juste passer, tu es de passage, dans ce cas-là, yani, tu as le droit. Donc ici, l'interdiction, elle est faite pour celui qui rentre dans la mosquée afin de, d'y rester. Afin d'y rester. D'accord ? Et si, et ici, le cheikh cite cela comme preuve pour l'interdiction du tawaf. Comment on peut... Il cite ce verset comme preuve pour le fait, pour interdire le tawaf en état de... En état de grande impureté. Comment on peut en tirer ?
Parce que le tawaf est fait justement dans la mosquée.
En fait, il dit, Hafidhallah, il dit, « فَمَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْبَقَى فِيهِ يَقْتَضِي مَنْعَهُ مِنَ الطَّوَافِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى » Une babi aula. Il dit le fait, l'interdiction qui est faite du fait de rester dans la mosquée, bah automatiquement cela, le tawaf il passe en priorité. Puisque le Kaaba est dans la mosquée. Donc automatiquement déjà tu fais le tawaf, c'est que tu restes dans la mosquée, etc. Tu vois? Donc tous ces... Les choses que l'on a citées, d'accord, les choses que l'on a citées sont interdites lorsque tu es en état d'impureté majeure comme en état d'impureté mineure. Ensuite, quant à amma al-ashiya allati tahrumu 'ala al-muhdithi hadathan akbar khassa. Maintenant, quant aux choses qui sont interdites, d'accord, qui sont interdites pour celui qui est en état d'impureté et un majeur spécifiquement. Donc là, on a dit, on a cité des choses qui étaient interdites en état d'impureté majeure, en état d'impureté mineure. Peu importe. La prière obligatoire, la prière surrogatoire, toucher le mushaf, faire le tawaf dans la Kaaba. Maintenant, il y a des choses que tu peux faire lorsque tu es en état d'impureté mineure, tu n'as pas tes ablutions, mais que tu ne peux pas faire lorsque tu es en état d'impureté majeur. Donc la première des choses, qira'at al-Qur'an. Qira'at al-Qur'an, le fait de lire le Qur'an. Comme cela est rapporté dans le hadith de Ali, radiyallahu anhu, où il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yani ne le lisait pas en état de janaba, lorsqu'il était en état de d'impureté majeure. Dans une autre version, yuqri'una al-Qur'an, ma lam yakun junuban. Il nous lisait le Coran ou il nous faisait lire le Coran, yani tout le temps, sauf quand il était, sauf quand nous étions ou il était en état de d'impureté majeure. Donc cela nous prouve que celui qui est en état d'impureté majeure, ici lui est interdit de réciter le Coran. Il lui est interdit de réciter le Coran. Et ici, d'une manière générale, quand on parle de l'état d'impureté majeure, souvenez-vous tout le temps que les femmes qui ont ces menstrues, les femmes qui ont les menstrues, les femmes qui ont les lochis, sont touchées par cela. Bien que certains savants, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ont autorisé à la femme qui a ses menstrues de réciter le Coran de peur qu'elle l'oublie. Donc regardez, subhanallah al-azim. L'importance de réviser ces sourates. L'importance que l'on doit donner au Coran. Que dire que même la femme qui a ses menstrues ici, elle a été autorisée de réviser. Que dire de nous ? Tu n'as jamais été menstruée. Mais on révise quand ? Chose, subhanallah al-azim. Quel est le temps ? De peur qu'elle l'oublie. Alors que, généralement, les menstrues, 3 jours, 4 jours, une semaine. T'imagines ? A'adhanallahu wa iyyakum. Combien de temps on peut passer sans réviser le Coran? Et ça, c'est un... Ça, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. La personne doit se remettre en question. La personne doit se remettre en question. Et comme le dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu, radiyallahu anhuma, qu'est-ce, dans le sens de sa parole, qu'est-ce qui empêche la personne de lire le Coran? Subhanallah, tu rends du travail, à quoi qui t'empêche de lire le Coran? S'il te plaît, à quoi qui t'empêche de lire le Coran? Si tu as appris qu'il y a eu un incident quelque part, tac, tu vas allumer la télé, tu vas regarder. Ah, il y a quoi? Tu vas regarder. Subhanallah, après ton travail, il y a une vie. Il y a une vie. Donc ici, c'est important. C'est important de se remettre en question parce que les jours défilent, les jours passent, la mort approche et yani, il y aura un jour où on ne pourra plus œuvrer. Par contre, il n'y a pas de mal à celui, un exemple qui est en état d'impureté majeure, de parler de choses qui sont en concordance avec le Coran. Un exemple, toi tu es en état d'impureté majeure ou la femme elle est en état de menstrue et tu lui dis ça va, elle te dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce qu'on va lui dire, ah, tu as lu le Coran, c'est interdit? Non. Ici, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à cela. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'intention de réciter le Coran. Comme la personne qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme la personne qui fait du dhikr, etc. Car il est rapporté de Aïcha, radiyallahu anha, donc dans un hadith rapporté par les mêmes musulmans, et notamment le Bukhari ici. Donc, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيان. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelait d'Allah dans toutes les situations, dans toutes ses positions, dans tous les moments, à tout moment. Également, parmi les choses dont il est interdit spécifiquement pour celui qui a ses, qui est en état d'impureté majeure, que ce soit en état de janaba, donc en état d'impureté majeure, ou en état de menstrue, ou en état de lochi, le fait de rester dans la mosquée, d'accord, rester dans la mosquée sans ablution. Rester dans la mosquée sans ablution. Donc toujours par rapport au verset 43 de la Sourate Nisa, que l'on a cité tout à l'heure, « Ya ni la tatrulu al-masjid il-baqa effet » Donc ici, il explique le verset, « Ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu s-salam wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun, wa la junuba illa abiri sabil, hatta taghtasilu al-aya » Ya ni, dans le sens, n'entrez pas dans la mosquée pour y rester. Pour y rester. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, « Wa la uhil al-masjid lil-ha'id wa la junub » Ya ni, n'est pas autorisé ici de rester dans la mosquée pour la femme qui a ses menstrues ou pour celui qui est en état d'ablution. Mais si la personne doit rester dans la mosquée, ici il lui suffit de faire des ablutions. فَإِذَا تَوَضَّأَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرٌ Donc celui qui est en état d'impureté majeure, mais qui fait ses ablutions, ici lui est autorisé. Il lui est autorisé de rester dans la mosquée, comme cela a été rapporté de Ata. Ata, vous entendez, vous allez voir souvent dans les kutub, Ata. C'est qui Ata? Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah, qui faisait partie des plus grands savants parmi les tabi'in. C'était le mufti de Mecca. Alors qu'il y avait encore des compagnons. Il y avait encore des compagnons à son époque. C'était lui le mufti de Mecca. Quand les gens posaient des questions à certains sahabas qui étaient encore là, ils disaient, on me posait la question à moi alors que Ata est là-bas. Et Ata, rahimahullah, était un esclave. Ata ibn Rabah, non, c'est pas lié avec Bilal. Pas de ce que je connais, mais de toute façon, c'est...